Deutsche Welle. Allemagne Magazine.
Guten Tag, bonjour à tous. Au Bénin, c'est le 1er août. En République démocratique du Congo, c'est le 30 juin. En Guinée, c'est le 2 octobre. En Allemagne, c'est le 3. Le 3 pour le 3 octobre 1990, jour de l'unité allemande. Cette année, les festivités se dérouleront dans un pays qui cherche son gouvernement, car si les députés élus le 22 septembre font leur rentrée un mois après, comme le veut la loi, rien ne dit que d'ici là, Angela Merkel aura trouvé un partenaire pour former son gouvernement. Enfin, tout cela n'empêche pas la ville de Munich d'accueillir comme tous les ans la fête de la bière. Pour tout savoir sur les us et coutumes de la plus grande fête populaire du monde, restez avec nous pendant un peu plus de 12 minutes. C'est Constance Dunkotse au micro. Bienvenue à tous.
Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten.
Die Mauer wird in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen bleiben.
Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk! Wir sind ein Volk!
Vingt-quatre ans déjà que cette phrase « Nous sommes le peuple » retentissait sur les places, dans les rues et sur les avenues de Leipzig, la métropole du sud de l'Allemagne de l'Est, où certains d'entre vous ont peut-être fait leurs études. 24 ans que le mur de Berlin est tombé, c'était le 9 novembre 1989, et c'était l'aboutissement d'une révolution pacifique. 23 ans que l'Allemagne est réunifiée, c'était le 3 octobre 1990. Comme tous les ans depuis cette date, le pays fait le bilan et si beaucoup de progrès ont été accomplis, il reste aussi de grandes disparités entre l'Est et l'Ouest. Des disparités qui se remarquent ne serait-ce que dans la langue. On parle toujours d'allemand de l'Est, les Ossi, et d'allemand de l'Ouest, les Wessi. On parle aussi de nouveau Länder pour désigner les anciens États de la République démocratique allemande, ou encore d'ostalgie, c'est-à-dire de nostalgie vis-à-vis de l'Est, vis-à-vis d'un quotidien que certains regrettent parce qu'ils le trouvaient plus solidaire, moins compliqué, moins cher, plus sécurisé. Des impressions qui ne sont pas propres à l'Allemagne, loin de là. Si aujourd'hui l'économie de l'ancienne Allemagne de l'Est est repartie, elle reste toujours moins dynamique qu'à l'Ouest. Le chômage y est presque deux fois plus élevé qu'à l'Ouest, les salaires y sont plus bas. En revanche, les infrastructures fonctionnent bien, les universités sont au même niveau, les femmes travaillent plus et plus longtemps qu'à l'Ouest. Les crèches pour les enfants y sont aussi plus nombreuses. Le bilan devient plus complexe lorsque l'on se penche sur les clichés qui persistent d'un côté comme de l'autre et qui sont notamment nourris par les disparités économiques. Thomas Peterson de l'Institut Allenspar a mené en 2012 une enquête à ce sujet.
Les Allemands de l'Est ont clairement plus de préjugés sur les Allemands de l'Ouest que l'inverse. Les Allemands de l'Ouest sont arrogants, ils ne pensent qu'à l'argent, ils sont bureaucrates et superficiels. Voilà des clichés encore largement répandus. Le sentiment que l'Allemand de l'Ouest se sent supérieur est lui aussi encore très présent, pas au quotidien et pas non plus avec la même charge agressive qu'il y a 15 ou 20 ans, mais il existe encore. De l'autre côté, les Allemands de l'Ouest ont l'impression que ceux de l'Est ne sont jamais contents, sont méfiants et angoissés.
Alors difficile évidemment dans ces conditions de se considérer comme un seul peuple, contrairement à ce que laissait penser le slogan scandé en début d'émission. Andreas Zick, sociologue à l'université de Bielefeld, a lui aussi étudié la question. Et pour lui, ce manque d'unité s'explique aussi par le manque de relations entre ce qui fut deux États.
On aimerait qu'il y ait plus d'amitié et de contact entre les Ossi et les Wessi. Mais il faut se rendre à l'évidence. Tout ce processus d'unification dure beaucoup, beaucoup plus longtemps que ce qu'on aurait imaginé.
Pour autant, rien ne sert de dramatiser et surtout, il faut garder à l'esprit que l'Allemagne est réunifiée depuis 23 ans, mais elle a été coupée en deux par un mur pendant 28 ans, sans compter que dans les faits, la division remonte au moins à 1949. Pour Andreas Tick, tout est donc une question de temps et de génération.
Les deuxième et troisième générations après l'unité sont bien plus optimistes et se sentent plus proches. C'est chez les générations plus âgées que le passé se ressent plus et pèse aussi davantage. Ce sont les personnes qui ont vécu la réunification, qui y ont mis de grands espoirs, à raison d'ailleurs, et qui sont déçues.
Alors les clichés et les préjugés disparaîtront-ils un jour et si oui, quand? Pour l'heure, personne n'ose s'avancer. Le fait que les Allemands aient largement plébiscité Angela Merkel, une femme et une femme qui est née et qui a grandi en ex-Allemagne de l'Est, est peut-être le signe que les choses évoluent dans le bon sens. Il fallait bien un petit air bavarois pour se mettre en jambes, des centaines de milliers de visiteurs, des prix d'hôtels astronomiques et de la bière en veux-tu, en voilà. Pas de doute, à Munich, l'Oktoberfest bat son plein. Cette année, la plus grande fête populaire du monde fête sa 180e édition. D'ici la clôture dimanche à 23h, environ 6 millions de visiteurs seront passés dans les allées de la Theresienwiese, la plaine de Thérèse, au centre de Munich. Depuis des années, personne ne touche plus à cette recette qui gagne, des grands chapiteaux où jusqu'à 10 000 personnes peuvent boire, manger et chanter, une quantité de manèges et en plus de tout ça, la touche bavaroise, des hommes en culottes de cuir et les femmes en robes traditionnelles appelées les dirndl. Notre correspondante à Munich, Isabelle Hartmann, s'est penchée sur cette robe particulière que même les touristes veulent aujourd'hui absolument porter parce que la fête de la bière, c'est aussi la fête des dirndl.
Cette chanson fait office de signal. Dès que les premiers accords retentissent sous les chapiteaux, des milliers d'amateurs de bière lèvent leur chope, entonnent le refrain et trinquent au bon moment que l'on passe avec les amis. Un tiers des hommes ici portent une culotte de cuir, les deux tiers des femmes, elles, un dirndl. Dirndl, c'est le nom d'une robe qui existe en Bavière depuis le 19e siècle. Le dirndl incarne aujourd'hui l'habit bavarois féminin par excellence et est l'un des souvenirs préférés achetés par les touristes venant à Munich pour la fête de la bière. Mais beaucoup ne savent pas faire la différence entre un vrai dirndl et une mauvaise copie et se promènent dans la ville avec des robes très courtes, aux couleurs fluo et au décolleté plongeant. On est loin du dirndl traditionnel tel que le porte Renate Dendorfer de Munich.
C'est un dirndl typique du sud de la Bavière que j'ai fait faire exprès. Le bustier a un décolleté carré et est en velours rouge avec des broderies. Le tablier est du même rouge, la jupe dessous est noire et le jupon est blanc. Les dirndls pas chers que l'on voit ici, ce sont plutôt des déguisements de carnaval.
Un vrai dirndl est en effet composé de quatre éléments. Un chemisier à manches courtes couvrant les épaules, un bustier coloré bien ajusté de sorte à faire une jolie poitrine mais sans que ce soit vulgaire, une jupe noire descendant au moins en dessous du genou et un tablier par-dessus reprenant les couleurs du bustier. Ce sont les caractéristiques qu'a choisi de respecter Rahme Vetri, l'une des créatrices les plus intéressantes en ce moment du monde du dirndl. La couturière a quitté son Cameroun natal enfant, il y a de cela 34 ans. Aujourd'hui, elle conçoit avec sa sœur des dirndls de coupe classique à partir de tissus africains. Rahme Vetri.
Là où je viens, le Cameroun, on porte beaucoup du wax. Alors c'est le tissu de mon enfance, les pagnes que ma mère porte, etc. Et quand les clients achètent, ils achètent vraiment des couleurs vives. Alors ils ne viennent pas prendre du marron foncé, c'est vraiment du rouge, du vert, comme en Afrique, et c'est vraiment portable.
Dans son magasin appelé Noni, situé dans la cour d'une rue très branchée de Munich, les dirndls sont le produit phare. Les tissus viennent du Ghana, du Mali, du Cameroun. Certains bustiers sont rehaussés de perles ou de coquillages. Malgré leur prix, qui tourne autour de 900 euros, les clientes se les arrachent déjà plusieurs mois avant le début de la fête de la bière, Rahme Vetri.
Si tu prends le côté classique du dirndl, il y a vraiment le tampon bavarois. Et si moi je le porte en tant qu'Africaine, voilà, je suis déguisée, totalement. Mais notre dindle avec le tissu africain, c'est plus ouvert. On le décline du pagne et on retire juste l'essence de ce beau tissu. Et ça devient un produit tout à fait nouveau, ouvert à tout le monde.
Une combinaison subtile qui a pour premier mérite de raviver le dindle sans détourner la tradition centenaire qu'il représente, et pour second mérite, de ne pas ridiculiser non plus les tissus africains et les pays d'où ils viennent. La créatrice Naamé Vetri.
On a essayé de faire ce mix et apparemment ça nous a réussi. Et déjà, on est vendu dans un grand magasin, dans un rayon pour tenues traditionnelles. Alors on est classé traditionnel bavarois, c'est trop cool. C'est très chic.
À la fête de la bière, les créations de Noni font mouche. Et à côté des faux dindles, criards et souvent vulgaires, les dindles à l'africaine font vraiment très classiques et très bavarois.
Les dindles à l'africaine et la fête de la bière, un reportage signé Isabelle Hartmann. Un reportage que vous pouvez retrouver comme le reste du magazine sur le www.dw.de/français. Et puis si vous avez des questions sur l'Allemagne ou des remarques sur ce magazine, il suffit de nous envoyer un mail à français@dw.de. Pour les 2 semaines qui viennent, c'est Philippe Pognan qui sera aux commandes. Nous, on se retrouve à la fin du mois. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine et tschüss.
Es gibt nicht viel auf dieser Welt, woran man sich halten kann. Manche sagen die Liebe, vielleicht ist da was dran. Und es bleibt ja immer noch Gott, wenn man sonst niemand hat. Andere glauben an gar nichts, das Leben hat sie hart gemacht. Es kann so viel passieren, es kann so viel geschehen. Nur eins weiß ich hundertprozentig, nie im Leben würde ich zu Bayern gehen. Ich meine, wenn ich 20 wär und super talentiert, und Real Madrid hätte schon angeklopft und die Jungs aus Manchester. Und ich hätte auch schon für Deutschland gespielt und wär mental topfit. Und Uli Hoeneß würde bei mir auf der Matte stehen. Ich würde meine Tür nicht öffnen, weil für mich nicht